I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Face à Mathieu Bock-Côté. Cher Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Arthur de Vatrigan. Alors c'est une émission un peu spéciale parce que vous recevez ce samedi deux autrices, Dora Mouto et Marguerite Stern. Bonsoir à toutes les deux, qui ont publié un ouvrage qui fait polémique, Transmania, qui a même été victime de censure dans les rues de Paris. Pourquoi avoir invité ce samedi Dora Mouto et Marguerite Stern, cher
Parce
Mathieu?
Parce que c'est un ouvrage qui fait polémique, mais c'est un ouvrage qu'on n'a pas lu. C'est assez amusant. Donc c'est le type de polémique propre à notre époque. Donc tout le monde dit ne lisez pas ce livre. D'ailleurs, je ne l'ai pas lu moi-même. Donc ça, il y a quelque chose d'un peu fou là-dedans. Donc nous allons faire ce pari étrange dans le cadre de la prochaine heure. Nous allons comprendre ce livre que nous avons lu. Méthode à l'ancienne, j'en conviens, mais qui a peut-être quelques qualités. Mesdames, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Une question première, avant d'entrer dans le cœur de l'ouvrage, c'est une question qui a balayé le monde occidental depuis quelques années. On se demande d'où vient-elle, et la question que je vous poserai d'abord, c'est comment avez-vous rencontré cette question, la question de l'idéologie transgenre, Dora Mouto?
Alors, on l'a rencontré toutes les deux en étant dans les milieux féministes. Donc, côtoyant ces milieux-là, on a été confrontés très vite à la question transgenre. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, après je laisserai Marguerite parler de son cas, mais dans mon cas, j'avais un compte sexo féministe très influent sur Instagram, suivi par 500 000 femmes. Et peu à peu, des militants transgenristes sont venus me dire que, si je parlais de clitoris et d'utérus, il fallait que je puisse inclure les pénis de femmes. Alors au tout début j'ai trouvé ça assez comique, puis ils m'ont vraiment embêtée, puis ils ont dit aussi qu'il fallait que j'arrête de dire femme et il fallait absolument dire personne menstruée. À partir de là j'ai dit non, pas du tout, c'est pas un compte où on va utiliser ce type de langage. Et donc le harcèlement a commencé, j'ai commencé à avoir cette réputation de transphobe, puis on m'a traitée de TERF, ce qui veut dire trans-exclusionnary radical féministe. C'est une insulte, c'est comme dire féminazie ou autre. Et j'ai commencé à me passionner pour cette question-là parce que tout d'un coup c'était très étrange qu'il y ait énormément de féministes qui adhèrent en fait à cette novlangue. Et donc peu à peu en fait j'ai commencé à enquêter sur ce sujet.
Moi j'ai eu un peu le même chemin que Dora, c'est-à-dire que j'étais aussi en 2019 en train de devenir une espèce de petite égérie du féminisme. J'avais mon portrait dans Le Monde, dans Libération, je venais de créer un mouvement de collage contre les féminicides, et puis j'ai vu des femmes s'emparer de mon esthétique qui était au départ dédiée aux femmes mortes, et des femmes qui ont commencé à faire des collages « Une femme trans est une femme ». Moi, l'idéologie transgenre, à ce moment-là, je savais déjà ce que j'en pensais. Et j'ai commencé à prendre la parole à peu près en même temps que Dora. En fait, on ne se connaissait pas à l'époque. Et finalement, on s'est rencontrés au fur et à mesure des années parce qu'on a été un peu les deux féministes étiquetées un peu de gauche, de ces milieux-là, à prendre la parole là-dessus. Et ça a été un peu une dégringolade sociale pour nous. C'est-à-dire que Dora a perdu tous ses contrats. Moi, je me suis pris des œufs dans le visage en manifestation féministe. On a subi vraiment beaucoup de violence, beaucoup de censure de la part du milieu dont on venait, mais on ne le regrette pas.
Alors, poursuivons juste en essence sur la découverte de cette idéologie avant de plonger dans l'ouvrage. Est-ce qu'elle se présente d'abord à vous sous le signe de l'hilarité? C'est-à-dire, mais c'est quoi cette étrange idée qu'une femme aurait un pénis, un homme peut avoir un vagin, et ainsi de suite? Ou est-ce que tout de suite, vous sentez qu'il y a, au-delà de l'hilarité possible, vous sentez qu'il y a une remise en question fondamentale de notre conception de ce qu'est un homme et une femme?
C'est un espèce de mélange, en fait. On a eu un peu les deux réactions en même temps. Mais c'est vrai que dans une réaction un peu primaire, en tant que féministe, quand on a vu des hommes commencer à gagner des compétitions sportives pour femmes, là, vous vous dites, il y a un gros problème. Et surtout, en tant que féministe, vous vous dites, mais si on ne sait plus définir ce qu'est une femme, alors comment peut-on encore se dire féministe ?
je vous pose la question aussi parce que franchement, je suis encore, moi je bascule entre l'étonnement et quelquefois la perplexité philosophique devant ça. Donc vous, l'humour, l'amusement,
au
la colère.
Au tout début, il y a eu beaucoup d'amusement parce que quand on commence à me parler de pénis de femme, je me dis vraiment, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comique, enfin, on nage en absurdie, mais bon, allons-y. Et puis peu à peu, quand on commence à rentrer dans le sujet, on se rend compte qu'il y a un véritable lobby qui essaye d'effacer la notion de sexe au profit de la notion de genre et qu'en fait, eh ben, il y a énormément d'argent injecté là-dedans et que tout ça n'est pas du tout une petite blague. Et c'est ça qu'on essaye de faire comprendre aux gens dans ce livre, c'est qu'il ne faut pas prendre ça justement à la légère comme on a pu le faire au début, c'est qu'il faut vraiment s'en inquiéter, il faut s'inquiéter pour les femmes, pour les enfants et aussi tout simplement pour en fait, le socle de la société, c'est-à-dire que si on ne sait plus qu'un homme ou une femme, eh bien, on se retrouve avec des situations où effectivement la population commence à se demander si Brigitte Macron ne serait pas un homme. C'est-à-dire qu'effectivement, ça crée chez les gens une sorte de stress, en réalité, parce que c'est, voilà, ça crée une sorte de tension où les gens se mettent à soupçonner tout le monde. On va tous se dire, attends, c'est un homme, c'est une femme, je ne sais pas si cette personne a un peu des traits masculins, c'est probablement un trans. Et donc, ça crée cette situation de transmania.
Alors, le basculement. On pourrait dire il y a 10-15 ans, ça existait comme idéologie, mais c'était assez périphérique, c'était assez marginal. Le basculement a eu lieu il y a quelques années. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est tous, d'une manière ou de l'autre, en contact avec cette idéologie. Alors, question première au cœur de l'ouvrage, comment expliquez-vous ce basculement, cette normalisation, cette banalisation de l'idéologie transgenre?
À travers les lois, peut-être.
Oui, à travers les lois. Bon, en fait, en réalité, effectivement, il y a toujours eu des personnes qui avaient une dysphorie de genre. C'est-à-dire que c'était des personnes qui se sentaient mal dans leur corps, dans leur sexe. Et on considérait ça un problème psychiatrique, une pathologie. C'est ce qu'on appelait le transsexualisme. Et jusqu'à là, nous, on n'avait pas de problème outre mesure avec les gens qui sont transsexuels et qui, après un long parcours dans le médical, se disent « bon, bah, finalement, bon, on va transitionner, on a tout fait, il n'y a rien qui marche, il y a une obsession, il y a un mal-être profond. » Sauf qu'on a basculé dans le transgenrisme, qui est une idéologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, les personnes transsexuelles sont instrumentalisées pour essayer d'imposer cette idéologie à tout le monde qui nous fait dire aujourd'hui que on se retrouve avec le gouvernement, avec énormément d'institutions, l'OMS, la Haute Autorité de la Santé, etc., qui laissent entendre, effectivement, que le genre serait plus important que le sexe. Et c'est arrivé à travers un certain nombre de lois, c'est-à-dire que dans les années 90, on a basculé. Jusque dans les années 90, en France, le sexe à l'état civil et le sexe biologique étaient la même chose. Quand un homme allait se faire castrer, parce qu'il faut dire les mots, au Maroc ou en Thaïlande, quand il revenait sur le territoire français et qu'il demandait à ce qu'on change ses papiers, c'était un non ferme. Puis dans les années 90, ça remonte jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme va punir la France en disant « non mais en fait là maintenant, va falloir accepter ça ». Et puis en 2016, ça avance encore plus loin. En fait, les associations transgenristes font un vrai travail de lobbying de fond auprès des députés, des sénateurs, etc. Et depuis 2016, en France, on peut être une femme et avoir un pénis. Et c'est considéré comme tout va bien.
Et il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de sources dans votre livre. Il y en a un qui est étonnant, qui a été confirmé par un rapport sénatorial, c'est l'augmentation très très importante de demandes de changement de sexe chez les mineurs. On a presque fait x80 en 10 ans. Comment expliquer est-ce que les associations, les lobbies ont analysé cette augmentation et sont rentrés, ou c'est le travail des lobbies qui fait qu'il y a une augmentation des demandes? Comment ça fonctionne et quels sont les facteurs?
Alors les lobbies travaillent en effet beaucoup pour que le langage transgenriste soit normalisé dans les médias, etc. Mais ce qu'on peut observer chez les jeunes, c'est qu'il y a une forme de contagion sociale qui se passe beaucoup par les réseaux sociaux. Et notamment, en fait, il y a une augmentation spectaculaire du nombre de jeunes femmes, de jeunes filles, d'adolescentes qui se disent trans. Aujourd'hui, elles représentent la majorité de la population trans. À titre indicatif, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le service qui reçoit les moins de 20 ans qui veulent transitionner, 68% des petits patients sont en réalité des filles. Des filles, donc il y a les garçons aussi, en tous les cas, toute cette patientèle qui présente aussi tout un cocktail de comorbidités psychiatriques, troubles du spectre autistique, troubles borderline, dépression, anxiété, état de stress post-traumatique aussi pour beaucoup de jeunes filles qui en fait ont été victimes de violences sexuelles et qui finalement tombent un peu dans le féminisme qui leur dit que qui présente la féminité comme quelque chose qui n'est pas glorieux, qui n'est pas enviable. Et finalement, ces jeunes filles le disent parfois, même ce sont leurs mots en fait. Je n'ai pas envie d'être une fille, c'est trop difficile d'être une fille, je veux être un garçon. Et donc vraiment, cette augmentation spectaculaire, elle s'explique par voilà, ce phénomène de contagion sociale, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'école. C'est un phénomène qui a été étudié par la docteure Lisa Littman, qui développe le concept de dysphorie de genre d'apparition rapide, avec des jeunes filles qui, en l'espace de 2 semaines, vont se déclarer trans. Et parfois, dans certaines écoles, vous avez des clusters de 5-6 filles sur une classe de 20 élèves qui se déclarent trans. Et donc, on pense qu'il n'y a rien d'organique là-dedans et que donc, c'est bien une forme d'imitation sociale.
Alors, mais il y a un effet de basculement. C'est-à-dire, publiquement, on a l'impression que la question transgenre, en fait, l'idéologie transgenre, touche surtout des hommes qui s'identifient comme femmes. Par exemple, dans le sport, on le voit beaucoup, des hommes qui veulent participer, des hommes biologiques qui s'identifient comme femmes, qui veulent participer à des compétitions sportives féminines. On le sait dans la nage, par exemple. Il y a la question pour la possibilité pour un homme qui s'identifie comme femme d'être dans une prison pour femmes. Or, vous nous dites que finalement, au-delà de ces cas très médiatisés, la question transgenre touche surtout plutôt les jeunes femmes. Donc, il y a une forme d'écart entre la réalité et la représentation.
Oui, parce qu'elles sont beaucoup plus discrètes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est une femme qui devient un homme, quand on va aller dans les sports, on ne va pas gagner grand-chose. Hein. Donc, effectivement, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. On a effectivement des hommes qui cherchent à être visibles et puis qui sont aussi très violents, comme...
Qu'est-ce que vous entendez par là?
Ce sont des hommes qui censurent, qui harcèlent. Ce sont des hommes qui font des menaces de mort à toutes les femmes qui s'y opposent, que ce soit Marguerite ou moi, J.K. Rowling ou tellement d'autres femmes dans le monde.
Il y a eu des femmes vraiment agressées physiquement. Je pense par exemple à la militante féministe Posy Parker qui a été agressée physiquement en Nouvelle-Zélande. Je pense à la championne de natation Riley Gaines qui justement, elle s'était opposée au fait qu'un homme transféminin avait remporté un concours à sa place. Elle a dû être exfiltrée alors qu'elle donnait une conférence dans une université. Enfin, la scène est d'une violence. Vous êtes face à des meutes qui ont l'air sous hypnose collective, qui ont l'air prêtes à frapper. Et puis, dans le transgenreisme, il y a toute une esthétique de la violence. Vous avez, par exemple, sur des sites comme Etsy.com, en vente des t-shirts avec des kalachnikovs aux couleurs du drapeau trans, avec des messages appelant à tuer les TERF, donc les femmes comme nous. Vous avez aussi un jour de célébration qui s'appelle le Trans Day of Vengeance, donc le jour de la vengeance trans.
Qu'il faut distinguer de la journée Trans Day of Remembrance.
Oui, c'est
ils ont 15 000 dates par an. Donc voilà.
Mais alors, cela dit, on opérera, je devine, la distinction entre d'un côté les garçons, les filles qui se sentent appelés à transitionner, entre guillemets, et les militants radicaux qui sont portés à cette violence. Pour vous, cette violence, elle est le propre de ces radicaux ou c'est plus large?
Pour nous, on n'accuse pas du tout toutes les personnes trans d'être violentes, tout ça. On sait que beaucoup de personnes trans, en fait, sont juste perdues. Pour les adolescents, en quête identitaire, et c'est tout à fait normal aussi, quelque part, de plonger, en fait, dans une mode qu'on vous présente. Parce que quand vous êtes adolescent, vous êtes sensible à ça. Et en ce sens-là, on appelle vraiment les parents à faire attention à ce que leurs enfants regardent sur les réseaux sociaux, à s'informer sur le sujet et à penser, votre enfant peut tomber dedans, en fait, du jour au lendemain. Mais voilà, enfin, on pense pas que toutes les personnes trans soient violentes. Néanmoins, voilà, il y a cette esthétique de la violence, il faut aussi en parler.
Dramoutou.
Oui, et puis ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que bon, effectivement, il y a un certain nombre d'hommes qui transitionnent pour devenir des femmes, et que derrière ça se cache quand même un certain nombre de tabous, notamment de paraphilie sexuelle, comme l'autogynéphilie. Alors c'est très très tabou d'en parler, mais ce sont des hommes qui sont excités sexuellement à l'idée d'être une femme. Ce sont des hommes qui sont, comme diraient les Américains, porn sick, c'est-à-dire malades de la pornographie, parce qu'ils consomment certaines niches pornographiques, comme le sissy porn, comme tout ce qui est du contenu, shemale, ladyboy, etc.
Traduction pour le commun immortel.
Alors, c'est un type de porno où on voit, en fait, effectivement, des personnes trans, souvent des femmes à pénis, c'est-à-dire que ce sont des hommes transféminins qui vont avoir des seins, des visages refaits, mais qui vont garder leur pénis. Ça fait fantasmer beaucoup de monde, vu que c'est la 3e catégorie la plus vue sur Pornhub aux États-Unis. Si vous regardez d'autres sites porno comme X-Hamster ou autres, ce sont des catégories gigantesques de contenu. Et donc, il y a quand même beaucoup de gens qui regardent ça. Alors, soit, effectivement, ils sont excités par les personnes trans, c'est ce qu'on appelle des gynandromorphes, c'est un nouveau type d'attirance. Et on a d'autres personnes qui, à force de regarder ce type de contenu, ont aussi eux-mêmes le fantasme de transitionner. Donc on est quand même sur... le sujet du porno est quand même assez central dans certaines transitions masculines. Donc eux, ce sont les autogynéphiles, mais on a aussi un certain nombre d'hommes, en fait des hommes homosexuels, transsexuels, c'est-à-dire que ce sont des hommes homo, depuis toujours, qui ont des attitudes très féminines. À l'époque, on les appelait peut-être les grandes folles, etc., qui aiment les artifices féminins, et eux vont vouloir transitionner, parce que il y a un certain nombre d'hommes gays qui sont attirés par les hommes hétéros et qui voudraient vivre aussi une vie sans être qualifié d'homme gay, donc il transitionne pour pouvoir être en couple avec des hommes hétéros.
Alors que je comprenne bien, ensuite je passe à parler à Arthur de Vatrigan, vous nous expliquez que dans certains cas, il y a une difficulté à assumer son homosexualité, donc ça dit quelque chose par ailleurs sur l'acceptation de la chose dans la société, et qui se tourne donc vers la transition plutôt que d'assumer ce qui serait leur orientation naturelle, si je comprends bien votre...
Oui, tout à fait.
On sait que par exemple à la clinique du genre Tavistock, qui est donc une clinique en Grande-Bretagne qui a fait transitionner des milliers d'enfants, qui est aujourd'hui fermée suite à des dérives graves et qui est poursuivie par plus de 1000 familles, on sait que dans cette clinique du genre, il y avait entre 60 et 70% des personnes suivies qui se sont finalement révélées homosexuelles. Et en fait, dans plein de services des cliniques cliniques du genre, en fait, vous avez ce type de statistiques. Donc, c'est à prendre en compte,
Arthur de Vatrigan.
Quelle est la part de la transgression dans la transition? Dans une époque où tout est relativisé, où plus rien n'est choquant, est-ce qu'on peut mesurer ça?
Bah oui, il y a une partie de transgression, mais en même temps, c'est une fausse transgression vu qu'on est hyper célébré sur les réseaux sociaux quand on fait ce type de transition. Donc effectivement, c'est le meilleur avant-après possible, c'est-à-dire qu'ils s'amusent sans arrêt à faire ce type de vidéo. Donc souvent, on voit un homme qui était peut-être pas très séduisant en tant qu'homme, qui avait peut-être du mal à avoir des relations intimes, etc., qui se transforme soudainement en une... belle plante avec plein de filtres, donc c'est pas non plus la réalité, parce que quand on voit les personnes en vrai, c'est pas tout à fait pareil, mais sur les réseaux sociaux, cette transgression est hyper, hyper célébrée, donc effectivement, pour des gens qui sont un peu isolés, un peu mal dans leur peau, un peu rejetés, tout d'un coup, il y a une sorte de love bombing de cette communauté-là, les gens vont leur envoyer une tonne d'amour, en leur disant qu'ils sont très courageux, qu'ils sont géniaux, ça pousse un certain nombre de gens un peu paumés à...
Mais à vous entendre, j'ai l'impression que votre livre repose sur le constat d'une immense détresse, c'est-à-dire la popularité de l'idéologie transgenre, si je vous comprends bien, repose sur une crise existentielle propre à notre temps, et c'est le point culminant de ce qu'on appelle la quête identitaire des uns et des autres aujourd'hui. Donc il y a une forme de détresse sociale qui est derrière la popularité de cette idéologie.
Marguerite, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de profils de personnes qui transitionnent et qui détransitionnent. Dans notre livre, on donne par exemple le cas de Prisha Mosley, qui est une femme qui a détransitionné. En fait, toute la première partie de notre livre s'est faite de façon vraiment incarnée, où on livre des récits, des témoignages de parents, d'enfants trans, de personnes qui ont transitionné et qui sont en désaccord avec l'idéologie transgenre et qui estiment que ça les fait passer pour des tarés aussi. Et donc, il y a ce témoignage de Prisha Mosley, qui est donc une jeune femme qui vit dans le Michigan, qui a aujourd'hui 25 ans, qui a transitionné quand elle en avait 15. Elle a commencé à prendre de la testostérone à 17 ans. Et ce qu'elle décrit est très représentatif de ce que vivent en fait beaucoup de personnes trans. C'est-à-dire, elle avait des parents démissionnaires à l'époque, parents alcooliques. Donc, elle a été très livrée à elle-même. Troubles psy, isolement social. Et donc, elle a transitionné dans ces conditions-là parce qu'elle était face à des médecins qui lui présentaient la transition comme la solution à tous ses problèmes. Et elle souffrait aussi d'anorexie. En fait, elle, ce qu'elle pense, c'est que les médecins qui l'ont soignée, entre guillemets, qui lui ont administré de la testostérone, finalement, ne savaient pas comment régler son trouble borderline, son anorexie. Et donc, ils lui ont dit, mais t'inquiète, on a la solution trans, en fait, ça va régler ton problème. Évidemment, ce n'a pas été le cas et ça a eu des conséquences dramatiques sur sa santé.
Et on va revenir en deuxième partie, notamment, sur justement ce que veut dire détransitionner, les thérapies hormonales, les jeunes, donc la dimension plus médicale, vous me pardonnerez, on y reviendra. Mais pour compléter cette première partie, il nous reste environ un peu moins de 4 minutes. j'ai évoqué la question de la détresse en tant que telle. Ouvrons quand même un pont vers la deuxième partie, avec la fameuse question de la détransition. Alors, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un autre terme pour le commun et mortel, on n'est pas tout à fait familier avec ça. Qu'entendez-vous par la détransition, et est-ce un phénomène de plus en plus fréquent ?
Alors, la détransition, c'est majoritairement des femmes, en fait, qui choisissent d'arrêter leur transition. On ne sait pas exactement combien de personnes détransitionnent, tout simplement parce qu'elles ne sont pas comptabilisées dans les cliniques du genre, soit parce que quand elles vont dans ces endroits-là, on leur dit « on ne peut rien faire pour vous », soit parce que tout simplement, elles ne veulent pas y aller, elles ne veulent pas y retourner parce qu'elles sont traumatisées parce que les médecins leur ont fait à cet endroit-là. Mais on a de plus en plus de voix qui s'élèvent outre-Atlantique, de jeunes femmes qui portent plainte, qui font des procès aux médecins qui les ont fait transitionner parfois à leur famille, en estimant qu'à ce moment-là, elles étaient dans une situation de grande vulnérabilité, de fragilité, et que finalement, les médecins n'ont pas pris ça en compte et qu'elles ont fait des choix avec des conséquences irréversibles, désastreuses pour leur santé. Et aujourd'hui, c'est un parcours du combattant pour ces personnes-là de détransitionner parce que les médecins ne savent pas comment faire. Par exemple, hormonalement, c'est un grand bordel.
Et justement, vous parliez, vous décriviez l'idéologie transgenre comme une gouroutisation, presque une secte. Comment sont accueillies justement les détransitionneuses ou les détransitionneurs ?
Très mal.
Est-ce qu'ils sont complètement rejetés ? Est-ce qu'ils sont honnis ? Est-ce qu'ils sont violentés ?
Ils sont rejetés. Ils se prennent une tonne d'insultes. C'est des traîtres de la cause trans. Donc effectivement, pour eux, il y en a beaucoup qui nous contactent, mais qui ne veulent pas témoigner publiquement tellement ils ont peur. Et effectivement, c'est très compliqué pour eux parce que les médecins n'arrivent pas à les aider. Pour détransitionner aussi, ça coûte de l'argent. Les transitions sont payées dans un sens, mais dans l'autre sens, par exemple, quand on est une femme et qu'on a de la barbe, ça part pas comme ça. Il faut faire des épilations définitives. Et ça, c'est pas forcément pris en charge. Donc en fait, c'est extrêmement, extrêmement dur pour ces personnes-là. Et puis, faire une telle erreur, ça doit être terrible.
Alors, il y a une dimension, il nous reste environ 1 minute 30 pour la première partie. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est une dimension religieuse dans tout ça.
Oui.
C'est la possibilité pour l'être humain de renaître tout autre que ce qui est la possibilité d'une renaissance, d'une s'arracher à son enveloppe charnelle pour naître autrement. Est-ce que vous avez vu cette dimension religieuse, entre guillemets, dans votre enquête?
Oui, tout à fait. Alors, justement, moi, j'ai toujours été surprise que les personnes trans n'utilisent pas cette rhétorique religieuse, même s'ils disent tout le temps « je suis née dans le mauvais corps ». Donc, effectivement, quand on creuse un peu, qu'est-ce que ça voudrait dire de naître dans le mauvais corps? C'est-à-dire que l'âme et le corps seraient peut-être séparés, un dieu ou une personne vous aurait mis dans la mauvaise chaussette. Enfin, de quoi s'agit-il vraiment? Et effectivement, en fait, c'est une croyance. C'est une croyance proche d'une croyance religieuse, sauf que, malheureusement, la mairie de Paris ne le traite pas comme ça. Pourtant, on est censé être dans un pays laïque, la laïcité devrait être au centre de nos valeurs, mais quand il s'agit de transgenrisme, tout d'un coup...
Il nous reste 30 secondes avant la pause.
C'est vrai que sur l'aspect croyance, on observe aussi un peu des dérives sectaires, comme il peut y avoir... je dis pas du tout que c'est le cas de toutes les religions, mais en tous les cas... Moi, ça me fait aussi penser à l'aspect dérive sectaire et parfois on se demande un peu ce que fait la Miviludes, quoi.
Voilà pour la première partie de Face à Mathieu Bock-Côté. On revient dans un instant après la publicité. Dora Mouto, Marguerite Stern sont donc nos invités. Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. À tout de suite. La seconde partie de Face à Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté et Arthur de Vatrigan sont toujours avec nous, bien sûr. Et pour cette émission, vous recevez donc pendant une heure Dora Mouto et Marguerite Stern. Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre aux éditions Magnus. Poursuivez l'entretien, cher Mathieu.
Alors, posons tout ça de manière très concrète pour des jeunes personnes qui amorcent leur transition non seulement sociale. La transition sociale, c'est en gros, je décide de m'identifier comme femme, même si je n'ai pas d'opération de thérapie hormonale. Mais basculons sur la dimension médicale. Qu'est-ce que ça veut dire pour une jeune personne de 14, 15, 16 ans, vous me direz si ce sont des âges qui sont interpellés, de commencer une thérapie hormonale? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que la formule, on l'entend, donc c'est le premier pas vers une chirurgie. Qu'est-ce que ça veut dire cette fameuse thérapie hormonale dont on parle beaucoup?
Alors, en France, si on parle uniquement des mineurs, ce qui est autorisé pour les mineurs, c'est donc de prendre des bloqueurs de puberté, j'y reviendrai, de prendre des hormones croisées, donc testostérone pour les filles et oestrogène pour les garçons, et puis pour les jeunes filles qui ont plus de 16 ans, d'accéder à la mammectomie. Donc, c'est-à-dire l'ablation des seins. Pour l'opération dite de réassignation sexuelle, il faut être majeur. Juste pour replacer un peu de contexte, je rappelle qu'il y a eu cette proposition de loi qui va être étudiée, donc qui a été proposée par le groupe sénatorial des Républicains pour interdire les transitions médicales sur les mineurs. Pourquoi ? Parce que si on prend par exemple rien que les bloqueurs de puberté, c'est extrêmement grave. Et on administre ça à nos enfants dans nos hôpitaux aujourd'hui en France. Il y a entre 16-18 unités hospitalières qui font ça à des enfants. Donc quand on administre un bloqueur de puberté à un enfant, normalement c'est originellement prévu dans les cas de puberté précoce, voilà, des enfants qui ont une puberté avant 8 ans. Et normalement on administre ça pendant 2 ans maximum. Or, dans le cadre des transitions de genre, on administre ça aux enfants pendant 6 ans. Et ça va avoir pour effet donc, de bloquer complètement le développement sexuel. Ça fera des eunuques à l'âge adulte. Infertilité, impossibilité d'avoir un orgasme. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on bloque les hormones sexuelles, on bloque aussi le développement du squelette. Donc on se retrouve avec des gamins qui ont de l'ostéoporose à 15 ans. Et puis on bloque aussi développement du cerveau.
Mais ça, c'est vrai dans tous les cas ou c'est des cas de...
Non, ça c'est dans tous les cas. Parce qu'en fait, il faut comprendre le rôle des hormones. Le rôle des hormones, c'est extrêmement important. C'est une des bases biochimiques de notre corps. Quand on touche à ça, quand on touche à cet équilibre, c'est très grave, en fait. Et donc, ces hormones-là ont un rôle pour le squelette, pour le cerveau, dans tous les cas, pour tous les enfants. Et avec Dora, la question qu'on se pose, c'est mais comment des médecins peuvent faire ça ? Parce que c'est une prescription hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire que, voilà, on dépasse la durée de prescription. Et donc, cette proposition de loi pour interdire les transitions médicales pour les enfants, on espère vraiment qu'elle va passer. On espère que la France va s'aligner sur des pays comme la Suède, le Royaume-Uni, qui ont reconnu aujourd'hui qu'il ne fallait plus faire ça, qu'ils l'interdisent désormais, et qui disent que quand on fait ça, ça s'appelle de l'expérimentation médicale sur enfants.
Alors, je reprends cette formule, l'expérimentation médicale. Oui. On a quelquefois l'impression qu'il y a une génération d'enfants cobayes, en fait. C'est-à-dire, oui, il y a le sentiment de toute puissance de la médecine aujourd'hui, qui se dit quelquefois, on va fabriquer l'homme nouveau en laboratoire. Au XXe siècle, on a voulu le fabriquer par des utopies sociales, on les connaît. Et là, au XXIe, on se dit, on va fabriquer l'homme nouveau en laboratoire. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette génération enfants cobayes ?
Si, tout à fait. Et puis il y a aussi un certain nombre de médecins et chirurgiens qui sont très excités par le geste technique, en réalité. C'est-à-dire que ce sont des médecins...
C'est une accusation grave, ça.
Bah oui, mais dans un certain sens, en fait, ils aiment bien faire des opérations qui sont relativement difficiles. Je veux dire, quand on fait une phalloplastie ou une vaginoplastie, c'est assez technique quand même. Et du coup, il y en a qui sont intéressés par ce geste technique sans vraiment réfléchir aux conséquences et à la vie que vont mener ces gens ensuite. Parce que ces sexes-là ne sont souvent pas fonctionnel, c'est faux sexe.
Je me permets de vous relancer sur ça. Donc, il y a une forme d'hubris technique. Si je vous comprends bien, vous nous dites que d'un côté, puisqu'on peut le faire, on le fait, sans réfléchir à la signification de ce qu'on fait au même moment.
Oui, exactement. Et donc, il y a un certain type de médecin qui s'y retrouve là-dedans. Et puis, il faut aussi comprendre que, la France, c'est un cas un peu particulier, mais que, par exemple, aux États-Unis, il y a énormément de cliniques privées pour le changement de genre et que c'est un énorme business. Il y a aussi tout simplement des chirurgiens qui font énormément d'argent dans cette niche.
Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire tragique que vous racontez dans votre livre, l'histoire de la petite Capucine ? Je pense que ce sera assez éclairant pour les téléspectateurs.
L'histoire de la petite Capucine, en fait, on est entré en contact avec une maman qui a 2 enfants, les 2 sont autistes, et donc cette petite Capucine souffre d'un trouble du spectre autistique. Elle a aussi été victime d'inceste dans son enfance, et donc c'est une adolescente qui, du jour au lendemain, s'est déclarée trans. Une adolescente qui vit mal le fait que quand elle a ses règles, elle vit mal en fait sa féminité. Et donc sa maman l'a emmenée à l'hôpital public et ça s'est mal passé, ça se passe mal parce qu'elle est tombée face à des médecins qui ont insisté, qui insistent en permanence pour que sa fille prenne de la testostérone, qui disent à sa mère que ce serait peut-être bien quand même qu'elle se fasse couper les seins aussi. Dans un rapport du CMP qu'on a pu lire, la maman est accusée de mégenrage. Donc le mégenrage, c'est quand on dit à une personne, par exemple, quand vous dites à une fille, vous adressez à elle au féminin, alors qu'elle voudrait qu'on s'adresse à elle au masculin. En fait, cette jeune fille voudrait qu'on s'adresse à elle au masculin.
Les parents sont accusés de maltraitance parentale, en quelque sorte, parce qu'elle mégenrerait.
Dans un rapport du CMP.
Et en Suisse, on sait qu'il y a certains services sociaux qui ont retiré des enfants à des parents parce que les parents n'étaient pas transaffirmatifs.
Transaffirmatif, encore une fois, pardonnez cette exigence de traduction.
Oui, je suis désolée, ça veut dire que les parents ne valident pas la transition des enfants, ils n'acceptent pas d'utiliser le nouveau nom que l'enfant se donne, et donc il y a certains services sociaux qui s'occupent de ces parents.
Alors, c'est très important, parce que ce que vous mentionnez ici, c'est, il existait une telle chose dans le monde d'hier que l'autorité parentale. Et aujourd'hui, l'autorité parentale est remise en question si les parents n'acceptent pas, par exemple, l'idée, n'accompagnent pas leur enfant qui ferait une transition sociale d'abord et peut-être la transition hormonale ensuite. Donc, je présente les choses, vous me dites si je l'écris correctement. Les experts de la chose, les experts idéologiques, ou encore les militants ou les mouvements qui poussent à la transition ont plus d'autorité formellement sur les enfants que leurs propres parents.
Peut-être pas encore, on n'en est pas encore là, mais d'accord. Effectivement, on a l'air de se diriger vers là. Et puis, il y a une inversion, c'est-à-dire que, effectivement, quand un parent ne valide pas la transidentité de son enfant, certains estiment aujourd'hui que c'est une maltraitance enfantine, lorsque, en réalité, on peut se demander si pousser son enfant à transitionner et lui donner des bloqueurs de puberté et peut-être lui faire une mammectomie, c'est peut-être là que se situe la véritable maltraitance.
Pourtant, il y a des lois qui sont passées, ou en tout cas deux lois qui sont passées en France, glissées un peu en loose-dé dans les lois contre la thérapie de conversion. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ces lois-là qui peuvent être contraignantes pour les parents et pour les médecins?
Oui, alors en fait, donc il y a eu une loi qui est passée, il me semble que c'était en 2022, c'était contre les thérapies de conversion à la base homosexuelles, c'est-à-dire sur le modèle américain où effectivement il y a des centres religieux qui essayent de faire en sorte que des personnes gays deviennent hétéros. Eh bien, donc la France s'est alignée là-dessus en disant bon, il faut qu'on interdise les thérapies de conversion. Ok, très bien, pas de problème avec ça, évidemment. Sauf que il y a des militants transgenristes qui ont glissé le terme identité de genre là-dedans. Et le résultat est le suivant, c'est que aujourd'hui, quand certains psys s'opposent à la transition de certains de leurs patients, en leur disant peut-être que on devrait attendre un peu, on va faire une thérapie exploratoire, on va essayer de comprendre quel est le problème, ça peut être considéré comme une thérapie de conversion, c'est-à-dire que cette personne se décrit trans, donc il faudrait absolument la valider là-dedans. Et si on lui dit maintenant vous êtes peut-être pas trans, alors on peut être accusé de faire une thérapie de conversion à cette personne-là. Et effectivement, c'est aussi dangereux pour les parents, parce que des parents qui ne valident pas l'identité de genre de leurs enfants pourraient faire face à la justice comme ces psys.
Est-ce que la prison?
Alors, en France, pour l'instant, on n'a pas de cas concrets. Mais dans d'autres pays, il me semble que c'est le Canada. Il me semble qu'il y a déjà eu un parent qui a été arrêté.
Alors, un mot, détransitionner. J'ai l'impression, moi, j'ai une obsession avec le XXe siècle communiste, et j'ai l'impression quelquefois de revoir ça. Donc, le détransitionneur, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cesse de croire à l'idéologie dominante et qui est vu comme un traître à la cause. Alors ça, donc, c'est un... Enfin, il passe à l'Ouest. Mais avec cette originalité que passer à l'Ouest, c'était prendre l'avion ou fuir en voiture. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que détransitionner, c'est un parcours... hormonal transitionné, mais c'est un parcours hormonal aussi détransitionné. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un jeune homme ou une jeune femme détransitionné?
Alors, donc, ce sont en majorité des jeunes femmes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Juste pour revenir sur les causes de la détransition, en fait, il y a beaucoup de jeunes femmes qui détransitionnent parce qu'elles se rendent compte que finalement, en fait, elles sont lesbiennes et elles ne sont pas trans, ou bien à cause des conséquences sur leur santé. C'est beaucoup ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire de détransitionner? Ça veut dire que c'est des jeunes femmes qui ont pris de la testostérone pendant des années, qui se retrouvent avec de la barbe, en fait, qui doivent se payer toutes seules des opérations au laser pour s'enlever ça. Et puis, ça veut dire aussi que, en fait, hormonalement, elles ont complètement bousculer leur corps et qu'elles se retrouvent face à des médecins mais qui savent pas très bien comment prendre ça en charge, quoi.
Mais alors, une fois qu'on détransitionne, on revient à l'état antérieur, c'est-à-dire, autrement dit, on ferme une parenthèse ou on... C'est une trajectoire un peu différente. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il y a certaines conséquences qui sont irréversibles pour la santé, sur la santé. Quand vous prenez de la testostérone trop longtemps, quand vous êtes une femme, en fait, vous avez une hypertrophie du clitoris qui peut causer des très grandes douleurs, une rétractation des gonades internes, rétractation du vagin, de l'utérus, des ovaires. Vous pouvez aussi... quand vous avez pris de la testostérone pendant plus de 5 ans, vous avez un risque de cancer extrêmement accru au niveau de l'utérus, des ovaires et des seins. Et donc, en général, le corps médical vous recommande l'ablation de ces organes. Donc, forcément, en fait, une fois que vous êtes fait enlever ces organes, c'est pas comme là que d'un lézard, en fait, ça ne repousse pas. Et donc, quand on se fait enlever les seins, par exemple, on se fait pas juste enlever la masse graisseuse. On se fait aussi enlever, en fait, les tissus... qui produisent le lait maternel. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des photos de jeunes femmes tragiques qui ont malgré tout eu la chance de pouvoir tomber enceinte, malgré la testostérone qu'elles ont prise. Mais elles sont là avec leur bébé, sans sein, elles ne peuvent pas allaiter. Il y a des conséquences irréversibles.
Puis physiquement, elle reste toujours quand même un peu masculine. Quand on voit les femmes détrans, parce que c'est surtout les femmes qui détransitionnent, il y a quand même dans leur visage, ça se voit qu'elles ne reviennent jamais, je trouve, totalement, totalement à ressembler véritablement à des femmes. En fait, elles restent un peu trans.
Alors, parlons politique un instant. Alors, la mairie de Paris vous en veut. Il y avait une campagne de publicité pour la promotion de votre ouvrage dans l'espace public. Des figures importantes de la mairie de Paris ont dit « c'est inacceptable, nous devons en finir avec cette campagne de publicité ». Au même moment, des associations comme Stop Homophobie, si je ne me trompe pas,
SOS Homophobie,
annoncent qu'ils vont prendre des mesures contre vous. Votre livre est difficile à trouver en certaines librairies, alors qu'il est premier sur Amazon, il est premier sur les sites de... Mais là, difficile à trouver en librairie. Alors, je pose la question, on vous entend, on a l'impression que c'est le portrait d'une situation très grave, et il y a une censure qui se constitue. Comment expliquez-vous la puissance de cette censure qui vous tombe dessus depuis quelques jours? Et j'ajouterais, vous y attendiez-vous, mais d'abord, comment expliquez-vous la puissance de cette censure?
Alors déjà, la censure de la mairie de Paris, elle s'explique assez simplement. On parle de la mairie de Paris dans ce livre. Ils sont complices de certaines associations transgenres, c'est-à-dire qu'ils les financent. Donc à partir de là, effectivement, il y a un petit souci. C'est-à-dire qu'il y a certaines associations, notamment les associations qui nous attaquent, ils leur versent des subventions.
Donc on vous poursuit à même de l'argent public.
Oui.
Donc les taxes des uns et des autres servent à vous poursuivre.
Voilà.
D'accord, excusez-moi, c'est mon côté libéral qui parle.
Voilà, et exactement, ce qui est quand même un peu comique. Et puis effectivement, à la fois la mairie de Paris, mais aussi la DILCRA, qui est la délégation interministérielle contre le racisme, l'homophobie, etc., verse de l'argent à certaines des associations qui font la promotion des bloqueurs de puberté et des politiques d'autodétermination. Donc il y a aussi le conseil régional de l'Île-de-France qui verse de l'argent et un certain nombre d'autres régions. Donc effectivement, je pense que quelque part, ils n'ont pas très envie que ça se sache peut-être. Voilà.
Et puis comment est-ce qu'on explique cette cabale contre nous? En fait, c'est un peu le prolongement de ce qu'on vit depuis 4 ans. Et on pense que les militants transgenres sont particulièrement énervés parce que nous, on est des figures qui viennent de la gauche, en fait. Et
voilà. Des traîtres.
Voilà, on est un peu des traîtres et du coup, on les connaît bien aussi, en fait, parce qu'on a traîné dans ces milieux-là. Et finalement... ce livre pour nous, après ces 4 ans de harcèlement, en fait, je vous avoue, à un moment, on s'est un peu dit, c'est dur pour la santé, c'est dur pour votre vie personnelle, pour votre vie professionnelle. Et à un moment, on s'est un peu dit, c'est tout ou rien, soit on arrête, soit finalement on persiste, on signe, on sort ce livre, et donc on le sort un peu comme un acte politique, nous, ce livre. C'est-à-dire qu'on savait qu'on allait se prendre tout ça dans la figure, mais finalement, on... Je pense qu'on a pris conscience d'un problème très grave dans notre société, d'un problème qui touchera tout le monde, puisqu'on parle d'un véritable projet politique qui touche toutes les sphères de la société. Et malgré la censure, malgré les tentatives d'intimidation, on persiste et on signe parce qu'on pense qu'on a un rôle à jouer pour la France, un rôle de lanceuse d'alerte.
Vous dites que c'est un projet politique, ces associations ont des entrées, des soutiens. Est-ce que vous avez reçu des soutiens d'hommes politiques ou de femmes politiques? Est-ce que des hommes politiques en responsabilité ont vous demandé des renseignements, des informations, vous rencontrez pour justement essayer de faire des propositions de loi également?
Oui, on a rencontré un certain nombre. En fait, nous, ça fait un certain nombre d'années qu'on va voir des députés, des sénateurs, etc., pour essayer de leur, de faire en sorte qu'ils prennent conscience de la problématique. Ça a été très difficile. Il y en a beaucoup qui ont dit oui, on va faire quelque chose, et puis on n'a jamais rien vu. Effectivement, là, il y a le rapport de Jacqueline Eustache-Brinio qui change un peu la donne parce qu'elle s'est vraiment plongée.
Une sénatrice, Les Républicains.
Voilà, exactement, qui s'est plongée tout à fait dans ce sujet, qui a enquêté pendant plus d'un an, qui a reçu je ne sais pas combien de personnes, mais un nombre impressionnant de personnes qu'elle a auditionnées. Donc les choses bougent un peu, effectivement. Donc nous, on essaye Notre but, c'est d'aller parler à tout le monde, aussi bien à la gauche qu'à la droite qu'au centre. Mais le problème, effectivement, c'est que la droite, tant mieux, est très réceptive à notre discours. Maintenant, on aimerait bien que la gauche nous écoute et nous reçoive. Donc, s'il y en a certains qui sont un peu courageux, il est temps de nous recevoir.
Vous me permettez de revenir avec mon obsession au XXe siècle. ceux qui étaient anticommunistes depuis toujours, on ne les a jamais entendus, finalement, parce qu'ils avaient tort dès le début. Et je m'explique du point de vue des communistes. Si vous n'avez jamais créé notre religion, pourquoi est-ce qu'on vous entendrait ? Mais ceux qui avaient été communistes, c'est qu'ils ne l'étaient plus, ceux-là, on ne leur pardonnait jamais, parce qu'ils avaient finalement quitté l'Église. Est-ce que, du point de vue d'une certaine gauche, vous avez quitté l'Église ?
quitter la gauche, ouais, certainement, ouais.
Oui.
Parce qu'en fait, si vous voulez, nous, cette expérience, ce harcèlement qu'on a subi, nous a fait réaliser à quel point, oui, dans les milieux de gauche, il y a une forme de sectarisme, une forme de dictature de la pensée unique. Et je crois que c'est un peu propre, ouais, au milieu militant, féministe, de gauche, et désormais, on s'en tient bien loin.
Non, mais ils se sont tellement mal comportés, mais tellement mal comportés vis-à-vis de nous que...
C'est-à-dire
une sorte de cancel culture gigantesque, les médias qui titrent qu'on est transphobe depuis des années, sans même essayer de nous interviewer, sans même essayer de comprendre ce qu'on dit. Enfin, un traitement totalement intolérable, un manque de réflexion profond. Enfin, c'est des gens qui suivent une mode sans même savoir pourquoi. Enfin, donc effectivement, et qui collent des étiquettes. Leur truc, c'est les étiquettes à tout va. Donc effectivement, une fois qu'on est étiqueté soi-même, on commence à réfléchir à l'étiquette que portent les autres. Et on se dit, on va aller voir derrière. On n'est pas sûr que cette étiquette soit véritablement vraie.
J'ai une question qui va embêter un peu Mathieu, qui paye beaucoup, beaucoup d'impôts et ça lui fait beaucoup de mal. Donc vous avez dit que les détransitions n'étaient pas remboursées. Les transitions le sont à 100%.
Oui.
C'est-à-dire que qu'est-ce que vous pouvez vous faire rembourser ? À combien ça coûte à peu près une transition?
Oui.
Et il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que c'est remboursé, mais en même temps, ça a été enlevé des maladies.
Oui.
Donc comment ça fonctionne?
C'est l'énorme paradoxe. Donc, quand un homme transitionne pour devenir une femme, c'est minimum 100 000 euros pour le parcours complet. C'est-à-dire qu'il va faire une chirurgie de réassignation sexuelle. J'ai contacté la Sécurité sociale, c'est à peu près 27 000 euros pour une vaginoplastie ou une phalloplastie pris en charge par l'hôpital public. Ensuite, on va avoir les féminisations du visage. C'est tout un tas d'opérations. Il y a le menton, les pommettes, le truc, le machin. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire pour féminiser ou masculiniser. Ensuite, va y avoir aussi, il faut raboter la pomme d'Adam ou bien il faut changer les cordes vocales dans un sens ou dans un autre. Ensuite, va y avoir les cheveux, donc c'est mission des calvities, donc il faut régler le problème ou il faut porter des perruques. Et puis, il y a aussi l'épilation définitive qui est 100% remboursée quand on est un monsieur qui veut devenir une madame. Quand on est une femme et qu'on veut se faire épiler, c'est pour notre poche. Donc, il y a tout un tas de choses. Il y a aussi la rééducation de la voix. Et puis, il y a les anesthésies. Et puis, il y a les rendez-vous endocrinaux, il y a les rendez-vous avec le psy, allez, rendez-vous, bref. Et de l'autre côté, quand on est une femme qui transitionne vers homme, ça coûte moins cher, c'est à peu près 40 000 euros, parce que souvent les transitions sont quand même mieux faites, c'est plus facile pour une femme de paraître un homme que l'inverse. Et effectivement, la blague, c'est que depuis les années 2010, Roselyne Bachelot a décidé que le transsexualisme était dépsychiatrisé, mais c'est quand même remboursé avec une ALD, donc une affection longue durée, à 100%. Il y a un moment, il faut être logique. Soit c'est une pathologie et on rembourse comme pour n'importe quelle pathologie, soit c'est un lifestyle, c'est un choix de vie. Et dans ce cas-là, pourquoi le contribuable doit payer pour le choix de vie des gens et les chirurgies esthétiques de ces messieurs ou de ces madames ?
Alors, nous nous rapprochons de la fin de l'entretien. Vous avez évoqué le rapport de DLR, du Sénat, qui disent, alors je cite de mémoire, « Nous ne contestons pas la transidentité, mais nous contestons les dérives associées à cela. » Est-ce que c'est une formule que vous faites vôtre?
Mais oui, complètement. En fait, nous, on nous accuse en permanence d'être anti-trans, d'être contre les personnes trans, tout ça, mais pas du tout. Nous, on s'oppose à justement cette espèce de transmania, cette frénésie, cette course à la transition. Mais par exemple, dans notre livre, on livre le témoignage de deux personnes trans, donc une personne qui a un homme intersexe, donc un problème au niveau de ses chromosomes, de sa paire de chromosomes qui détermine la sexuation, et donc qui a préférer transitionner parce que c'était plus facile pour lui de vivre en femme. Et puis on a le témoignage aussi de Madeline, donc qui est une femme trans, un homme transidentifié, quelqu'un qui a transitionné pour devenir une femme, mais quelqu'un qui a pris le temps, qui a fait ça à partir de l'âge de 35 ans, qui a essayé aussi de trouver d'autres solutions. Et en fait, voilà, on n'est pas du tout contre les personnes trans. Et d'ailleurs, en fait, il y a énormément de personnes trans qui disent que, justement, elles préféreraient que les médecins trouvent une autre solution pour les soulager de la dysphorie de genre que de procéder à l'ablation de leur partie génitale. Or, les médecins ne leur proposent rien d'autre, en fait. Il n'y a pas d'études lancées en psychiatrie pour essayer de solutionner ça sans abîmer le corps. Et donc, nous, on se fait aussi le porte-voix de ces personnes trans-là qui n'en peuvent plus, en fait, de l'idéologie transgenre, qui n'en peuvent plus des histoires de non-binaire, de YEL, de tout ce folklore. Et donc voilà, on parle d'une idéologie, on n'est pas contre les personnes. C'est important de le préciser parce qu'apparemment, il y en a qui ne comprennent pas.
Eh bien, merci Dora Motto, Marguerite Stern pour cet entretien. Cher Mathieu, cher Arthur, à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On se retrouve dans un instant pour l'heure des Pro 2. À tout de suite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.